Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois MC Jerv, Stéphane Gervais, qui vient nous parler de son expérience en santé mentale. On avait reçu Stéphane en 2011, il nous parlait de sa dépression à l'époque, et on va faire un retour justement sur sa situation et comment il vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a comme projet. Alors ça sera très intéressant de l'entendre. Plus tard à l'émission, à l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question du sexe, de l'intelligence. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Louise Attaque et la chanson s'intitule « Du grand banditisme ». Bienvenue à Folie Douce.
Ce fut comme un séisme qui rase tout. Ah oui, du grand banditisme, tout a tremblé chez nous. Ce fut comme un séisme qui rase tout. Ah oui, du grand banditisme, tout a tremblé chez nous. Il fallait que je te le dise, rien. Je vais m'en aller doucement, rien. Faut qu'on arrête, on s'épuise, tout. Faut qu'on se sauve à présent, rien. Bien sûr que l'on voudra retenir, rien. Regoûter de l'autre les bras, tout. Peut-être même tenter de renier, tout. Bien sûr que l'on voudra tout ça, rien. Rien, 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 rien là-devant. Tout, tout, tout là-dedans. Rien, rien, rien là-devant. Tout, tout, tout là-dedans. C'est vu comme un séisme qui rase tout. Tout a tremblé chez nous. Ça fut comme un séisme qui rase tout. Ah oui, du grand banditisme. Tout a tremblé chez nous. Il fallait que je te le dise, tout. Je vais m'en aller doucement, tout. Faut qu'on arrête, on s'épuise, rien. Faut qu'on se sauve à présent, tout. Bien sûr que l'on voudra retenir, tout. Regoûter de l'autre les bras, rien. Peut-être même tenter de revenir, rien. Bien sûr que l'on voudra tout ça, tout. Rien, 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 rien là-devant. Tout, tout, tout là-dedans. Rien, rien, rien là-devant. Tout, tout, tout là-dedans. Rien, rien, rien là-devant. Tout, tout, tout là-dedans.
Syntoniser l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
Bien, j'ai le plaisir d'accueillir MC Jerv. Bonjour MC, ou Stéphane en fait, c'est ton vrai nom.
Bonjour.
Salut, je suis content de te revoir ici à l'émission. On s'est rencontrés en 2011. Ça fait quand même plusieurs années, puis on avait parlé d'une nouvelle chanson que tu présentais justement sur la dépression. T'es parti de très loin, puis c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui dans l'émission pour te connaître un peu mieux. Donc Stéphane Gervais, ton vrai nom.
Oui, c'est ça.
Communément appelé MC Jerv, parce que t'as fait beaucoup de maîtres de cérémonie.
Oui, c'est ça, MC pour maître de cérémonie. J'ai fait des spectacles de musique, j'ai fait de l'animation de scène, ouais. Des mariages, etc. Fait que... Ouais. Ça a resté mon surnom, puis tous les gens m'appellent comme Jerv, ça ouais. A toujours été.
C'est ça. En 2011, on voulait faire un retour sur ça, parce qu'en 2011, tu avais publié une chanson qui est maintenant au-dessus de 12 000 vues, qui est énorme, parce que sans publicité, sans rien à peu près, là, c'est vraiment ouais. beaucoup d'intérêt sur la santé mentale, mais c'était sur la dépression. Puis c'est une chanson qu'on avait présentée à l'époque ici, et qui était un cri du cœur carrément. Là, je l'ai réécouté encore récemment, puis écoute, il va être les tripes à la table.
Mm-hmm. Mais en fait, ça a commencé tout ça. La première chanson que j'avais faite, j'avais le décès de mon père. J'ai fait une chanson, ce qui est la mort de mon père.
Ouais.
J'ai vu que ça a suscité plus que 10 à 15 000 views.
Ouais.
Ensuite, j'ai fait, waouh, il y a un message à livrer parce qu'il y a des gens qui souffrent d'un deuil.
Ouais.
J'ai vécu un burn-out, une dépression. Je me suis dit, faut que je le partage parce que ça peut aider. J'ai écrit la chanson, j'ai enregistré la dépression. C'était de mon cru.
Ouais.
Avec mes feuilles, je ne l'avais pas appris par cœur. C'était un 9 minutes.
Oui, ouais, c'était une chanson où on va un peu parler, mais avec beaucoup de rage même, beaucoup d'expression dedans.
Ah, j'ai livré exactement la pure vérité de ce que j'ai vécu.
C'est ça.
Puis je voulais toucher les gens, puis je voulais... À la base, au départ, je voulais comme faire taire les tabous parce qu'il y en a qui disent la dépression, c'est une excuse pour aller travailler, c'est pour les lâches.
Ouais.
Il y en a d'autres qui vivent la dépression mais qui ont honte. Ils veulent pas en parler, ils vivent ça tout seul dans l'isolement. J'ai fait OK, je me fais porte-parole de la dépression.
Ouais.
Ça a marché.
Et justement, je présentais un extrait de 2011 quand où tu nous expliquais comment tu as un peu. Tu disais toi-même, sorti du garde-robe de la santé mentale, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que tu avais des problèmes de santé mentale. Puis cette publication de chansons-là a été en même temps une façon de t'affirmer, de dire je l'accepte et je le dis et c'est comme ça que ça va changer. Donc on va écouter l'extrait, on commentera ensuite ensemble, d'accord?
La seule peur que j'avais, c'est d'être bombardé de téléphone de mes amis que j'ai caché que j'avais une dépression parce que j'ai sorti du garde-robe, comme on dit, là, de la dépression au même moment que ma chanson. Fait qu'il y a des gens qui m'appelaient en panique. Ils pensaient quasiment que je voulais me tuer. Là.
Et donc, ils ne savaient pas au moment que tu l'as vécu?
Non, il y en a qui l'ont appris. Qui l'ont appris sur YouTube, sur Facebook. J'avais pas envie d'en parler. Je voulais pas que ça fasse le sujet de conversation d'un souper entre amis que je voulais aller. J'ai dit, je vais faire un boom, puis en même temps, ça va aider les autres. Je me suis couché là-dessus. Le lendemain, j'ouvre mon ordinateur. 4000 personnes ont cliqué ma chanson.
Wow. C'est quelque chose?
C'est gros. Dans ma boîte de Hotmail, j'ai à peu près 230 messages privés de gens qui se confient à moi. Là, je fais « Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y a de quoi faire. » Là, j'étais comme ces nuages. Je me suis mis à envoyer ma chanson dans les télévisions, dans les médias parce que je voulais que ça fasse jaser. J'ai dit « Faut que je fasse de quoi? Faut qu'il y ait de l'aide. » J'étais quasiment prête à appeler quelqu'un. Y a-tu un psychologue qui voudrait répondre à mes mails parce que j'en ai trop? Mais j'ai passé 2 semaines à répondre à chaque personne. Ils voulaient avoir mon opinion. Explique-moi ça, Jerv. Comment t'as appris ça à tes amis? Puis comment qu'ils l'ont pris? Ouais. Est-ce que tu te faisais juger? Puis tout ça, c'était des grosses questions des gens. Puis je te dirais, j'ai été approché par plusieurs artistes puis des gens de business connus qui ont... Il me dit, je te lève mon chapeau, tu dis tout haut ces choses-là, quitte à pas avoir peur de ton image brise, non.
T'as pas honte de ça?
Non, j'ai pas honte. Tous ces gens-là, la chose qu'ils m'ont dit, c'est merci.
Ouais.
Je leur demandais pourquoi merci. Il dit, après avoir écouté ça, on dirait que ça me donnait le goût de commencer à faire des démarches puis peut-être en parler un peu plus parce que je me sens tout seul, moi, là.
Ouais.
Quand t'en parles pas, t'es tout seul.
Exactement. Voilà, c'est un extrait, donc ça ne nous rajeunit pas. quelques années, en fait. Mais...
Ça fait drôle de se réécouter.
Oui, mais c'est intéressant, quand tu es venu, justement, on sentait quand même de l'espoir dans ton message, parce que c'est ça qu'on essaie de donner ici, finalement, à l'émission, de dire la santé mentale existe, puis tu as une façon de l'expliquer qui est aussi peut-être différente des autres. C'est à ta façon, à toi, puis ça porte, il y a quelque chose qui est clair. Puis finalement, déjà, tu as fait un bon bout de chemin, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es beaucoup mieux encore.
Version totale améliorée. C'est sûr que quand je suis venu en studio, j'étais fragile, très fragile.
On te sentait quand même fort parce que dans ton approche.
Mais en fait, il faut croire en soi. Puis j'y ai cru que c'était un long chemin et que je commençais ce long chemin-là à la guérison, l'auto-guérison que j'appelle parce que j'ai pris des moyens naturels après.
Ouais.
Et, là, on parle de 6-7 ans plus tard aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Je peux vous en parler tantôt.
Mais comment tu as procédé justement? Parce que je sais qu'à l'époque, moi, une chose que je me suis souvenu, puis j'y pense encore aujourd'hui, c'est drôle, là. Tu disais, j'ai décidé d'aller marcher dehors, puis j'ai trouvé que marcher, ça faisait du bien. Puis c'est simple, là, mais le monde, des fois, fait pas assez ça, justement, d'aller dehors, de respirer, de prendre l'air, de prendre le soleil.
Ouais.
Puis c'est un pas vers l'avant, mais tu as fait beaucoup d'autres choses aussi.
Ben, j'ai mis ça à un niveau. Moi, je fais tout ou rien.
Oui.
Là, je me suis dit, je suis fragile, les marches, c'est beau, ça fonctionne, mais il y a des passes auxquelles, je sais pas, Dépression saisonnière, c'est, tu sais, novembre, là, on est...
C'est ça.
On, d'habitude, dans un début.
Ouais.
Après Noël, on retombe dans un autre début.
Ouais. En février, des fois, ils disent que le taux de suicide monte, les gens sont déprimés aussi.
Fait que là, on parle de, des périodes temps gris.
Ouais.
Mais moi, j'y allais fois deux. J'allais, je faisais de l'entraînement musculaire, je faisais des cours de boxe, je faisais du badminton. Je me tiens tellement occupé que ça produit dans mon esprit, mon cerveau,
ouais.
on dirait des globules positives. C'était impossible de sombrer après un effort physique.
Ouais.
C'était au-delà de la marche, mais ça, c'est moi.
Ouais.
C'est...
Mais je me souviens qu'à l'époque, c'est parce que même avant que tu commences à marcher, je pense que tu n'étais même pas capable de faire ça. Tu étais comme pris un peu avec toi-même, puis tu te disais, à un moment donné, faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose. J'ai trouvé ça inspirant, la façon que tu as amené ça.
Ouais. Ben, en étant seul, c'est sûr qu'en étant seul, puis penser, fermer les yeux ou ouvrir la télé, se divertir pour ne pas penser,
ouais.
c'est mettre un plaster,
ouais.
mais c'est pas de mettre de longans. On n'est
ouais.
pas en train de guérir, on est en train de le couvrir, le problème.
Ouais.
En allant marcher, en faisant un effort, on parle de l'auto-guérison,
ouais.
on parle d'aller vers l'avant.
Peux-tu nous rappeler un peu comment tu es arrivé à faire une dépression majeure? Parce que tu nous l'avais raconté, comme
ouais.
quoi tu avais des symptômes très physiques, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire une dépression majeure? Puis ensuite, bon, c'est un peu ce qui t'a amené à en sortir.
Mais en fait, aujourd'hui, après plusieurs années, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste les situations de vie qui m'ont amené à une dépression. Il y a aussi ma santé. Exemple, ma santé physique. J'étais pas vraiment... je me sentais pas bien dans mon corps.
Okay.
Exemple, la digestion, des trucs qui n'avaient pas rapport avec... je croyais qu'ils n'avaient pas rapport avec mon esprit.
Ouais.
Mais finalement, quand on est tanné d'être malade, ça joue sur le moral.
Ouais.
Là, quand on perd... je sais pas, on a une séparation.
Ouais.
Mon père qui m'annonce qu'il a le cancer... un travail que je fais depuis 10 ans dans le nightlife, je suis tanné. Fait que là, je me sens comme perdu, raide.
Ouais.
Mon père est malade. Je sais plus si je veux continuer dans mon travail. Puis je file pas bien dans mon corps.
Ouais. Fait que t'as plusieurs stresseurs en même temps.
Ah, ouais, tout est arrivé en même temps. Là, j'avais des bobos de partout.
Ouais.
Là, ça en est venu dans la tête. Fait
ouais.
que la dépression, le burn-out, la fatigue totale.
Ouais.
Je pensais même que j'avais un caillot de sang au cerveau. J'ai fait des scans, j'ai tout fait. Ça se pouvait pas. Je m'endormais après manger, je m'endormais presque au volant. J'avais peur d'aller à l'épicerie parce que je voulais pas affronter la réalité, dire bonjour aux gens parce que
ouais.
je voulais pas qu'ils voient mon visage, parce que je croyais que mon visage était dépressif.
Ouais.
C'était quelque chose.
Non, c'est ça, c'est souffrant. C'est mm-hmm. ça que les gens ont de la misère à comprendre. Des fois, la dépression, c'est carrément physique, et c'est mental et physique aussi. Puis là, actuellement, tu es très... Tu vis une vie certainement rangée ou en tout cas équilibrée, on pourrait dire.
Là, je suis très content que vous m'invitiez à l'émission parce que c'est un bonheur que je vis. Et je suis très bien.
Ouais.
J'ai passé au travail la tempête. Écoute, là, je parle, j'en suis ému parce
ouais.
que c'est encore un combat, c'est sûr, parce que peu importe, on n'est pas à l'abri, personne.
C'est ça.
Mais je vois... écoute, je suis à un autre niveau.
T'as une stabilité.
Puis depuis que je suis venu à l'émission, que j'ai fait la chanson de la dépression,
ouais.
j'ai changé ma vie au fait que moi, je veux aider, je veux faire plaisir, je veux partager.
Ouais.
À toutes les fois que j'aide, je partage. Il y a une gratitude qui vient vers moi, un bonheur qui réveille quelque chose à l'intérieur de mon mental qui fait que c'est indestructible après. Ouais. Faire une bonne action, avoir un sourire en retour, un merci, une appréciation, se sentir valorisé, ça fait l'effet de 40 antidépresseurs.
Ouais.
Je conseille ça. C'est une de mes techniques parmi... plusieurs techniques que je suis même fébrile et hâte de te raconter.
Ouais. En principe, es-tu plus à l'écoute de toi?
Parce qu'on
dit souvent que les gens là, qui ont traversé ça sont énormément à l'écoute. C'est-à-dire, ils savent ce qui les rend malheureux, ils savent ce qui les stresse, ils savent
ouais.
ce qui les rend trop fatigués. Donc...
Oui, vraiment, c'est sûr. On apprend de ses erreurs. Quelqu'un va faire un move, puis excuse l'expression, et... il va frapper un mur.
Ouais.
Et là, la deuxième fois, il va y penser, il va prendre un autre chemin, il va prendre les moyens, une technique pour ne pas frapper un autre mur.
Ouais.
Mais moi, c'est d'écouter mon corps,
ouais.
d'écouter mon esprit, puis je le sais que si je prends tel chemin à droite, ça peut m'amener vers le retour en arrière, le chemin à gauche, exemple, mais ça va m'amener vers une nouvelle vie, un plus.
Oui, oui. Puis ton entourage, dans tout ce processus-là, on sait que ton père est décédé, ça fait quand même plusieurs années, mais le reste des gens que tu connais ou ta famille, comment ils ont conjugué tout ça? Est-ce que, on avait parlé brièvement, je pense, la dernière fois, mais en gros, est-ce que c'est un sujet qui était tabou? Est-ce que ça a été comme...
Sérieux? Oui. Ça va faire drôle parce qu'ils vont probablement écouter l'émission. J'étais le premier de tout mon entourage à dévoiler haut et fort que oui, je fais un burn-out, une dépression. J'ai accepté la médication au début. On me jugeait, mais on disait, voyons, tu sais, Jerv, t'es plus fort que ça, si ça. Puis ils voulaient me donner des trucs comme si c'était...
Juste pour se faire un peu encourager.
Ah ouais, c'est ça. Là, j'ai pris tellement de moyens. Puis depuis le travail que je fais là-dessus, parce que moi, je prends aucun médicament.
Ouais.
Aucun. Même pas une Tylenol, même pas une Advil. Là. Tout va très bien. Mais là, c'est mes proches, ils m'appellent, ils m'écrivent, ils veulent me voir, puis parfois, ils se confient à moi. Mm. Ils vivent un tel truc, puis je trouve ça...
Ils savent que tu as de l'expérience, ouais, puis tu es capable de...
Il y a comme un revirement de situation.
Ouais. Mais c'est un peu le rôle de père aidant. Là, on parle souvent dans la société, les pères aidants, les gens qui ont vécu ça sont bien placés pour... Souvent, comprendre la personne qui vit des problèmes, c'est ça?
C'est ça.
C'est bien.
C'est touchant, comme les gens que je connais pas, des inconnus qui me posent encore des questions aujourd'hui. Écoute, à cause de ma chanson...
Ouais. Puis tu avais un gros réseau, tu en as encore peut-être un gros réseau social, en fait. Puis si tu veux pas, le mot se passe, puis tu deviens comme un genre de modèle dans ça. Mais j'aimerais ça que tu restes avec nous aujourd'hui.
Plus tard
dans l'émission, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Okay. Tu sais, parce qu'on a vu un peu ton processus, puis qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, puis tu as dit que tu voulais aider les gens, donc on va en savoir plus. Reste avec nous, on va revenir avec toi un peu plus tard dans l'émission.
Parfait.
C'est beau.
N'oublie jamais personne, n'oublie rien. Disait-elle en chemin, s'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras.
vous voulez participer à Folie Douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604. Le 514-990-9604.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislain Malo.
Bonjour.
Aujourd'hui, le sujet que tu nous proposes, le sexe de l'intelligence.
Oui, une question qui nous chicote depuis longtemps.
Ouais.
Est-ce que c'est tendancieux pour un sexe ou l'autre?
Mais tu vas voir.
C'est dans ce sens-là, le sexe dans le sens oui, de hommes et femmes.
Oui, mais c'est à savoir, est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes? Est-ce que c'est le contraire?
Oh là, t'embarques dans un sujet controversé!
ça va augmenter les codes d'écoute.
Ah oui, c'est ça.
Ou est-ce que les différences, finalement, ne sont pas seulement que des différences de caractère?
Ah, OK.
Alors, j'ai regardé premièrement sur le site qui s'appelle intelligencehumaine.com, qui nous parle tout de suite des différences sexuelles de l'intelligence. Ils nous disent que le QI, le quotient intellectuel d'un homme adulte, est supérieur de 5,1 points sur une femme adulte, parce que le QI est mesuré en points.
Ouais.
Ensuite, le développement est plus rapide chez la femme de l'intelligence, mais plafonne plus tôt. Ensuite, on dit que le QI des hommes devient supérieur vers l'âge de 16 ans. On nous dit aussi que le volume crânien des hommes adultes est plus gros de 110 cm3. On nous dit que 19,3 milliards de neurones chez la femme. Et l'homme en compte un peu plus, c'est-à-dire 22,8 milliards de neurones. Et finalement, on nous dit que les hommes ont également des temps de réaction plus rapides, conséquence de la corrélation positive entre le QI et les temps de réaction. Mais ici, ce sont des réflexes. Alors, ces chiffres-là, on peut en faire...
C'est des... Physiquement, ça explique ouais. Là, un peu la nature des deux, là, des hommes et des femmes. Mais...
Bien, en tout cas, c'est plus flatteur pour les hommes, je te dirais. Mais l'article continue en disant « Un problème qui a parfois été soulevé dans le cadre de la relation entre les volumes crâniens et l'intelligence, c'est que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes et pourtant, il a été pratiquement universellement affirmé qu'il n'y avait pas de différence d'intelligence entre les hommes et les femmes. Par exemple, le cerveau des femmes est de 10 % plus petit que celui des hommes, mais leur QI est en moyenne identique. Étant donné que les femmes avec leur cerveau de plus petite taille moyenne sont tout aussi intelligentes que les hommes, il apparaît que la taille du cerveau n'a pas d'effet sur l'intelligence.
C'est comment on s'en sert, dans le fond, c'est un peu ça.
Ou peut-être la nature dit de l'intelligence.
Ou encore, tu sais, on pourrait dire, ben, si ça fonctionne comme ça, ben, les éléphants seraient plus intelligents que les humains.
Parce que j'imagine... Il y a un plus gros cerveau.
Ben oui, j'imagine.
Ouais, ouais.
On nous dit jusqu'à l'âge de 15 ans, les hommes et les femmes ont approximativement la même intelligence, sauf pour un petit avantage des hommes en visualisation spatiale. Mais à partir de l'âge de 16 ans, les hommes commencent à montrer une plus grande intelligence avec un avantage de 3 à 6 points de quotient intellectuel chez les adultes. L'intelligence peut être définie de 4 manières et dans 3 d'entre elles, la preuve pour un quotient intellectuel moyen plus élevé chez les hommes, est tout à fait clair. Donc, ça contredit ce qu'on disait tantôt. L'intelligence peut être définie par les tests qui donnent la moyenne de toutes les grandes capacités de compréhension verbale et non-verbale, de raisonnement, de visualisation, de la capacité de perception, de la mémoire immédiate et de la vitesse de perception. Ça, c'est ce qu'on dit sur le site intelligencehumaine.com. Dans d'autres articles, on dit autre chose. Mais tu es d'accord avec moi pour dire que ça se contredit. Là. Il nous dit que les hommes et les femmes ont la même intelligence. Puis après ça, il nous dit plus loin que le QI des hommes est supérieur à partir de 16
ans. Mais le QI ne signifie pas nécessairement peut-être tant que ça l'intelligence tout le temps, systématiquement.
Ouais. Hein? Est-ce que ça définit le type d'intelligence? C'est-à-dire un sexe a peut-être un type d'intelligence différente que l'autre?
Mais dans le premier article, on n'en parlait pas. Mais je vais vous lire quelques passages d'un autre article écrit par Mme Christine Marsan, qui est psychosociologue française. Elle nous dit que dans les années 80, on comptait 13,5 hommes pour une femme parmi les 1% des plus intelligents. Cette proportion est aujourd'hui de 3,8 hommes pour une femme. Donc, ça tend à s'égaliser. Les études réalisées ont montré que parmi les pourcentages moins intelligents, l'intelligence était plus équitablement distribuée entre les hommes et les femmes. Comment expliquer cette disparité chez les pourcentages les plus intelligents? Les femmes ne peuvent-elles pas être autant des génies que les hommes? Madame Marsan poursuit en disant « Pendant plusieurs siècles en Occident et plusieurs millénaires de par le monde, l'homme s'est décrété plus intelligent et a soumis la femme, lui répétant qu'elle était moins intelligente, voire pas du tout. Rappelons-nous la fausse information qui est bien inscrite dans nos esprits selon laquelle un concile de maçons aurait statué sur l'âme des femmes.
» Il y a aussi peut-être le fait que c'était plus difficile aussi pour les femmes de rentrer dans les cercles de scientifiques culturels de haut niveau à l'époque.
Là. Oui, c'est vrai. Madame Marsan poursuit en disant « Si l'information est fausse, l'opinion publique s'en est emparée et véhicule ce cliché depuis plusieurs siècles, ayant pour effet une dévalorisation de l'intelligence des femmes comme de leur conscience. Le 19e siècle a été particulièrement castrateur pour les compétences des femmes et il a fallu le combat, entre guillemets, des suffragettes puis des féministes pour obtenir des droits équivalents entre hommes et femmes. Cette inégalité de traitement a eu pour conséquence une séparation des rôles, des attributs et des compétences entre les hommes et les femmes. Ceux-ci étaient doués de raison, donc intelligents, quant aux femmes, davantage sujettes aux passions et aux émotions, ne participaient pas au débat d'idées. Les rôles étaient bien définis, même si les cours de roi ont vu les capacités politiques se développer aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'intelligence des femmes n'était pas la qualité que l'on attendait d'elles au 19e siècle. Une jeune fille de bonne famille devait avoir les qualités d'une bonne épouse, dont celle de la soumission, qui ne se marie guère avec l'intelligence. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan.
Et, poursuivre un petit peu plus tard.
Exactement.
Le sexe, donc, de l'intelligence à Folie douce.
La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce.
De retour au micro avec notre invité Stéphane Gervais, MC Jerv pour les habitués.
Rebonjour.
Il y en a beaucoup. Rebonjour, toujours avec nous. On a commencé plus tôt dans l'émission à parler justement de ton cheminement. je trouve ça drôle comme mot, cheminement, mais c'est quand même ça. Là. C'est un peu ton histoire de vie.
Ouais.
Depuis ta dépression, rétablissement jusqu'à aujourd'hui. T'sais, on parle quand même d'il y a plusieurs années où où tu as eu des années difficiles, puis tranquillement, je pense que tu as remonté. Mm-hmm. À quoi t'attribuerais, en gros, là, on va parler évidemment de ce que tu fais aujourd'hui, mais à quoi t'attribues ta meilleure santé finalement? Est-ce que tu as des trucs? Qu'est-ce que tu as fait?
OK, là, c'est là qu'on tombe là dans le « j'avais hâte de te rencontrer » pour te dire ce que j'ai fait, ce qui s'est passé dans les dernières années depuis. Premièrement, j'aimerais juste ajouter aux auditeurs... que, tu sais, la dépression, tantôt, on parle d'une maladie, je suis atteint de la maladie, mais je dis, on est tous atteints de la maladie.
On peut tous la développer.
On peut tous. Moi, je suis pas un docteur ni un scientifique, j'ai pas les mots les plus cotés, mais je vais y aller dans mes mots. C'est chaque personne, je dirais 50% de globules rouges, c'est un exemple, globules blanches, bon, mais tu vis plein d'épreuves, mais ça touche ton côté droit, ton côté gauche, tu perds des globules blanches, mettons. Mm. Ben, tu deviens plus fragile. T'as des épreuves, tu deviens plus fragile. Puis, mané, paf, t'en as tellement perdu que t'es pris dans le cercle de la dépression.
Ouais.
Ben, moi, j'étais fragile. Et en plus, j'ai frappé plein de murs.
Comme je te disais aussi, c'est...
dans la dépression.
Ouais. Puis des multiples stress, c'est ça. Tout est arrivé en même temps.
Personne n'est à l'abri. Fait
non,
que c'est... Mon message, en acceptant de venir à l'émission, c'est d'aider, parce que je continue à aider. Je voudrais que mon message y passe à tous les gens. Je voudrais que le tabou soit terminé. Je voudrais qu'on s'entraide. Je voudrais partager ce que j'ai fait. Puis, mais j'ai des trucs que moi-même j'ai fait. J'en parle toujours de l'entraînement, d'aller marcher. Parce que je vais vous parler du contre-entraînement. Les gens qui passent trop de temps sur leur téléphone, trop de temps sur Internet, trop de temps sur la télé, ils se captivent, ils vont ailleurs. bien, on n'a pas le temps de penser à ce qui ne va pas. On met une pause à notre malheur, on est dans le divertissement et on remet à plus tard, puis plus tard, on va en avoir un autre problème.
Ça s'accumule.
Un autre, puis un moment donné, quand on va en avoir 4-5, ça va être lourd.
Oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Les choses que tu as réglées, les niveaux dans ta vie que tu as fait, tu parlais tantôt de
l'exercice. L'exercice physique, c'est le top, le premier que j'ai fait.
Ouais.
Ensuite, j'ai changé mon alimentation.
Ouais.
L'alimentation avec des problèmes de digestion, des problèmes, ça l'affecte le moral quand tu n'es pas en forme. Ça l'affecte le moral. 100% sûr. J'ai fait un truc qui m'a marqué, vraiment marqué. Je suis allé faire de la méditation.
Ouais.
Je sais que ça peut sembler... de la méditation, c'est pas tous les gens qui sont des adeptes de méditation. Mais prendre le temps d'arrêter, fermer les yeux, respirer, mettre une pause et vivre dans le moment présent.
Ouais.
Quand on a réussi à faire une pause, ça dépend pour chaque personne, juste 5 minutes, 15 minutes, une heure si vous êtes capable, juste mettre une pause... Quand on rouvre les yeux et on reprend le cours de la journée, tout va bien. J'ai l'impression que tout passe. Le mauvais sentiment a passé. Il y a une compréhension qui s'est faite. Je suis allé faire un 10 jours.
Ouais.
C'est un centre de méditation qui est à Montebello. Ça s'appelle Vipassana. S'il y a des curieux qui peuvent le chercher sur Google, Vipassana, Montebello, centre de méditation. C'est tout expliqué. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait 2 fois. C'est un 10 jours auquel tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit d'écrire, de lire. Tu as 8 heures de méditation obligatoire avec un professeur. Tu es dans le muet pendant 10 jours.
Donc, on te donne une technique pour
te recentrer. Il n'y a rien à voir avec la religion. C'est juste de se recentrer, de respirer.
Ouais.
C'est sûr que méditation vient du Bouddha.
Oui.
Mais ça, comme je dis, c'est pas une pratique religieuse. Ils disent de mettre tout de côté. Si vous avez une pratique religieuse, peu importe, mettez-la de côté pour 10 jours. Concentrez-vous sur la respiration. J'ai passé le 10 jours. Il s'est passé des trucs.
Et ça, tu as fait ça dans les débuts, là. Je veux dire, il y a quand même plus... Il manquait peut-être ce côté-là.
Là, 2 ans et demi, j'ai pris la décision de l'essayer. J'étais nerveux comme aller à la guerre.
Ah ouais.
C'était la guerre avec moi-même. 3 premières journées, on ne comprend plus rien. Là, tout le méchant peut sortir. Il y a des compréhensions de ma vie qui ont sorti. J'ai pleuré.
Ouais.
C'est comme si... Je vais donner un exemple. C'est comme si j'avais un sac à dos rempli de roches. C'était pesant. Les roches, c'était tous les problèmes que j'ai vécu, tous les murs que j'ai frappés. Mon sac était lourd. J'avais de la misère à avancer, à marcher, ce qui était la dépression.
Ouais.
Quand j'étais là, je comprenais un problème. Je sais d'où il venait. J'ai passé au travers dans le silence. Je l'ai vu s'en aller. C'est comme si j'enlevais une roche de mon sac.
Ouais.
Deuxième problème, deuxième roche de mon sac. Troisième roche de mon sac. Mon sac à dos était plus léger après le 10 jours. Je suis sorti de là. Je voulais devenir... je n'aime pas le messie.
Un nouvel homme. Là.
Je voulais partager ça. Je voulais partager la bonne nouvelle.
Ça a été une révélation.
Une révélation, c'est incroyable. Ça, c'est la plus belle chose que j'ai fait. C'est un cadeau à moi-même que j'ai fait. Je l'ai refait une deuxième fois. Ben, j'ai enlevé une coupe de roche.
Ouais.
De plus, on va dire, en ce moment, mon sac à dos, il est
léger. Oui, effectivement. Mais est-ce que tu t'en sers chaque jour? Est-ce que tu es plus recentré sur toi? Est-ce que tu fais le vide de temps en temps? Parce qu'on dit des fois, comme tu dis, que même quotidiennement, c'est bon des fois de prendre un certain nombre de minutes pour juste...
Oui, mais moi, comme j'ai dit au début de l'émission, je suis tout ou rien.
Ouais.
Je suis un gars très game, mais j'ai enlevé la télévision de ma vie.
Mmh.
Première étape. Le monde dit, voyons donc, je peux pas enlever la télé. Oui, je l'ai essayé. J'ai plus de télévision.
Ouais.
J'ai plus de moyens de me captiver, de m'asseoir sur le divan puis d'écouter 3-4 émissions puis tomber dans la lâcheté. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça nous met... J'ai enlevé la télé et là, c'est ma 3e année sans télévision.
Puis Internet existe pour l'information.
J'ai enlevé Internet.
Internet aussi?
Aussi.
T'as-tu la radio?
J'ai la radio. je vous écoute.
Tu peux écouter, les nouvelles un peu? Ou lire le journal?
Mais non, j'ai le journal, la radio.
Ouais.
C'est ce qui me tient informé.
Ouais.
L'Internet, il y a assez de Wi-Fi. Je me suis dit, bon, ben,
de temps
toutes
en
les
temps,
fois, bing-bing, ouais. Ça sonne, je rentre dans un Wi-Fi, je prends mes messages, je reste connecté quand même.
C'est
là,
ça.
Parce que je réponds encore à des gens pour...
Mais c'est comme ça qu'on s'est recontacté aussi. Ouais, ouais. Quelque part, ça y a une utilité. Mais, ouais. Mais je comprends ton... Puis il y en a beaucoup, t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de télé. Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que c'était envahissant. Là.
Mais c'est dur. C'est dur. Excusez. C'est dur sur le... Mais c'est dur sur le mental à long terme, être trop captivé par un écran.
Puis le temps que tu sauves aussi, c'est
le
ça?
Temps que tu sauves.
Tu fais d'autres choses, tu sais.
Oui. Pas de télévision, moi, je vais prendre une marche avec mon chien.
C'est ça.
Je vais jouer à un jeu de société, Scrabble.
Tu vas peut-être appeler quelqu'un.
Mes amis,
ouais,
on va se donner rendez-vous, aller prendre un café, ouais. Jaser. Pas d'Internet, mais sur mon téléphone cellulaire, c'est magnifique.
Ouais.
J'ai rien pour me aller dans un autre... Un autre monde.
Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais, Stéphane, aujourd'hui? Parce que tu as fait beaucoup d'animation, tu parlais du travail dans le nightlife et à une certaine époque, tout ça. Mais aujourd'hui, ouais. Tu fais quoi comme travail? Puis qu'est-ce qui te motive?
Aujourd'hui, mais le nightlife, je l'ai mis beaucoup de côté. Je suis encore maître de cérémonie.
À l'occasion, tu fais
des animations que je choisis. Je me mets plus. Je suis plus attaché à 140 contrats par année.
Ouais,
j'en
ouais.
prends un peu. Ça me libère des fins de semaine. Je vois des amis de la famille.
Ouais.
Un de mes amis m'a dit, tu sais, Jerv, t'es le genre de gars qui aide, qui est tout le temps là pour les autres. Pourquoi tu ferais pas ça d'un métier?
Ouais.
J'avais pas pensé faire un métier. Et là, j'ai regardé pour être travailleur de milieu. C'est un travailleur de rue.
Ouais.
En fait, je suis intervenant auprès des jeunes, dans les écoles, les maisons de jeunes, les parcs, en fait, tous les milieux. Je suis là et j'aide, et j'apporte un support, je peux orienter les gens.
Et pas en milieu urbain, t'es plutôt en milieu rural, on pourrait dire, ou en milieu à l'extérieur de Montréal?
Moi, je travaille sur la rive sud de Montréal.
Ouais.
Je travaille dans les 11 municipalités de la MRC des Jardins de Napierville.
OK.
C'est... Tous les milieux. Les midis, je vais à l'école, je fais de la prévention sexuelle ou sur la dépression.
Ouais.
S'il y a des gens qui vivent des malaises, moi, je les oriente vers des organismes pour les venir en aide. Si je vais dans un parc, les jeunes consomment, mais moi, je suis là. Je les juge pas, je les écoute, mais je vais les aider, je vais les supporter, tu sais.
Mais tu te présentes comment, justement, dans un cas comme ça? Les gens te connaissent ou, je veux dire, s'ils te connaissent pas, tu approches comment?
Ben, j'approche comme un ami
comme quelqu'un
gentil.
Qui...
J'arrive avec un ballon de basket, puis je vais essayer
okay.
d'amener le sport. Dans
okay.
Puis je vais te dire que ça change l'esprit des jeunes quand ils veulent jouer au basketball, là, au lieu de consommer, au lieu d'être déprimés sur
ouais.
Facebook. Ils ont hâte que je repasse au parc pour jouer. Puis le temps qu'on fait du jeu, on libère, tu sais, comme okay. je l'ai expliqué, l'effort physique, ça amène du positif. Après, on va parler.
Ouais.
On va te dire, la conversation est super. Là.
Les langues se délient, puis il
ouais.
y a peut-être des choses qui se racontent, puis ils laissent tomber, justement, là, tu parlais de ton sac à dos avec des roches, il
ouais.
y en a peut-être des gens qui traînent des choses. Hein.
Oui, c'est sûr. Mais dans la jeunesse, ce qui est important à dire, c'est que, exemple, le jeune, ben, si on l'influence, on l'oriente vers quelque chose de bien, maintenant, on va l'empêcher de se faire des pocs.
Ouais.
Tu sais, de mettre des roches pesantes dans son sac dès le jeune âge. Quand il va arriver adulte, ben, il va avoir un sac à dos plus léger. Il
ouais.
va avoir les outils. Quelqu'un qui s'est. Comme quelqu'un qui vit une dépression tout seul chez lui puis qui n'en parle pas par orgueil, ça va être difficile.
Ouais.
Mais si on en parle. Si on le partage, on va avoir des gens qui vont être avec nous. On va y aller ensemble. On va aller vers le mieux ensemble.
Ouais.
C'est pas facile d'être tout seul. Puis moi, je l'ai fait au début. Là, je le crie haut et fort. Restez pas tout seul. Allez vers des ressources. Puis les médicaments, je peux-tu? J'ai combien
ouais, ouais,
de temps?
Oui, t'as une minute. Il y a une minute à peu près.
OK. J'ai pris des... OK, une minute. Je vais faire ça vite. J'ai pris des médicaments au début parce que
ouais.
j'ai accepté la dépression. Le psychiatre me dit « essaye ça ». Mais j'étais tellement gelé. Je me suis dit « non, ça se peut pas. Là, il faut que je trouve une autre façon ». J'ai trouvé les moyens de ne pas prendre de médicaments, puis ça marche. Si ça marche avec des aliments naturels, avec l'exercice, avec la méditation... J'ai passé au travers. Si je suis capable, tout le monde est capable. C'est ça que je me dis. Les médicaments ont été inventés par les pharmaceutiques, par les gens qui voulaient vendre des produits. Moi, je dis, des médicaments, puis ça, je vais prendre un petit... on n'a pas assez de temps. Hey, j'avais un truc que je voulais dire. Les médicaments, c'est Jérémy Demé qui dit ça dans un... dans une vidéo, vous irez voir ça.
C'est humoriste.
Oui, humoriste qui parlait de la dépression. Ouais. Sur YouTube, allez voir ça, HEC Montréal.
Ouais.
Il fait un discours sur la dépression.
Sur la dépression, parce que lui aussi a vécu certaines problématiques. Là.
Mais c'est ça, les médicaments, c'est comme si, exemple, ta chambre, ce qu'il disait dans la vidéo, c'est comme si ta chambre était en bordel, ta mère disait « range ta chambre ». Mais tu caches tous les trucs qui traînent, tu les mets sous ton lit.
Ouais.
C'est comme camoufler le problème. Il va revenir parce qu'à un moment donné, ton dessous de lit va être plein de choses. C'est ça, les médicaments. Je me dis, commencez à avoir le problème. Chaque problème, réglez-les au lieu de les cacher dans un tiroir en dessous d'un lit. Ouais. Le médicament ne fait que camoufler. Il ne guérit pas. Il ne fait que camoufler temporairement. C'est ça.
Il faut y aller à son rythme, évidemment. Il y a des gens qui sont obligés, peut-être qu'à une certaine époque, tu n'avais pas le choix d'en avoir, mais tu as eu la volonté d'en sortir, puis il faut que tu sois capable de le faire, mais ça se fait si tu veux vraiment.
Oui, ça se fait.
Merci beaucoup.
La preuve, je suis là, puis je suis heureux d'être ici. Ouais.
Merci beaucoup, MC Jerve ou Stéphane Gervais. C'était vraiment intéressant de te revoir une autre fois, puis on va se donner des nouvelles, c'est certain. C'est
merci,
intéressant de voir ton évolution.
Est-ce qu'on se dit un
prochain
rendez-vous?
Dans 6 ou 7 ans, peut-être avant. Mais
moi, j'accepte, même avant.
Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était vraiment intéressant.
Merci beaucoup de
te recevoir. Okay. Ouais. Bonne continuité.
Merci.
Bye-bye.
Bye.
J'ai rêvé sans jamais laisser un espoir venir m'effleurer, de partager vos coups et me greffer à vous. J'ai senti le souffle pourri d'une histoire où j'étais fini, révélant un instant que je suivrai les vents.
Connaître et communiquer avec nous, visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sexe de l'intelligence, entamé plutôt par Pierre et Justine, toujours à notre compagnie.
Oui. On doit dire que c'est des théories là, sur.
Oui, c'est sûr. Ça va faire parler les gens.
Ouais,
il y aura toujours le débat qui était plus intelligent, les hommes, les femmes. Mais d'après moi, c'est différent, tout simplement.
Oui, mais
ça fera voir d'après tes recherches.
Il y a bien des blagues là-dessus qui se font aussi.
Hein. Ah oui?
Les femmes ont une intelligence différente. En tout cas, c'est ça. J'étais en train de lire quelques passages de l'article écrit par Mme Christine Marsan,
ouais,
qui est psychosociologue française. C'est sur le site internet atlantico.fr. Alors, Mme Marsan nous dit « Depuis l'égalité en droit des hommes et des femmes à accéder à tout diplôme, études et métiers, la réalité est maintenant différente. Les plafonds de verre existent dans une grande majorité d'entreprises. » C'est-à-dire les plafonds qu'on ne voit pas.
Oh oui,
les
plafonds. Bon, on en parle toujours là, avec la première qui devient mairesse, la première qui devient première ministre. C'est vrai, ils vont briser le plafond de verre.
Oui.
Il faut souligner que dans les institutions universitaires, il y a plus de filles qui sont acceptées que les gars maintenant.
Oui, c'est vrai. Les dirigeants, Mme Marcel nous dit, les dirigeants ne voient pas d'un bon œil le partage du pouvoir et de ses avantages. Valorisation des décisions prises, avantages financiers ou postes clés d'une entreprise, sans compter les effets narcissiques du prestige qui sont difficilement partageables. Il y a ça aussi qu'il faut tenir en compte.
Le pouvoir, c'est pas mal le fun.
Le pouvoir, ouais, c'est ça. Il s'agit de se le faire donner aussi. Parce que si on n'est pas capable d'accéder, c'est difficile de prouver qu'on peut l'avoir. Hein.
Madame Marcel nous dit, alors, il est facile d'invoquer la disparité des capacités et une intelligence inégale à appréhender la complexité ou la stratégie. Au vu des résultats aux examens de toutes les disciplines, grandes écoles, polytechniques compris, des femmes qui réussissent partout et parfois même mieux que leurs confrères hommes, il reste le fait de dénigrer les femmes et maintenant un humour sexiste toujours largement pratiqué. On dit leur intelligence est celle de la maison, mais pas des sujets sérieux tels la stratégie, la politique, la prospective, domaine bien gardé des hommes, même si on retrouve plusieurs femmes en politique.
Puis ce que je reproche, moi juste, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais ce que je reproche souvent, c'est qu'on essaie de faire comme l'autre côté du balancier. Tu sais, non seulement on ne voudrait pas mettre une société égale, mais on essaie de faire en sorte que les femmes prennent plus le devant, mais je trouve que tout le monde devrait prendre, il y a des gens intelligents chez les hommes et chez les femmes, puis il y a des gens qui sont plus pour des métiers dans les deux cas aussi. Là.
Madame Marsan nous dit, les réseaux d'influence ont aussi une hiérarchie selon que l'on est un homme ou une femme, et nombre de loges maçonniques masculines continuent à tenir les loges féminines comme n'étant pas capables de penser de la même manière. Cette longue répétition historique d'une inégalité entre hommes et femmes et du discrédit massif des capacités intellectuelles des femmes a laissé des traces dans la psyché d'une majorité de femmes qui ont du mal à se départir du regard des hommes sur elles. Combien de fois encore aujourd'hui peut-on entendre d'un homme à la tribune d'une table ronde lors d'un colloque dire à une femme publiquement qu'elle est jolie, mais jamais qu'elle est intelligente, et la réciproque ne s'entend jamais. La confiance en soi a été inégalement valorisée entre hommes et femmes, d'autant que pendant longtemps, une femme qui s'affirme a été qualifiée d'agressive et une femme en colère d'hystérique. Le contraire, non. C'est vrai, un homme en colère, on ne dira jamais de lui qu'il est hystérique. On va dire, il a du caractère, peut-être.
Ça dépend de la colère.
Ça c'est pas correct.
Oui, puis ça dépend si ses bras moulinent, il fait pas juste crier.
C'est pas vrai, parce qu'il y a des femmes, des fois, qui s'affirment, puis ils ont pas l'air ça dépend toujours, je trouve que c'est des stéréotypes de dire une femme, ça dépend toujours de la façon qu'elle approche la situation, mais...
Madame Marsan poursuit en disant « À la maison ou à l'école, l'instruction est différente selon les sexes et les rôles attendus de chacun sont différents. La majorité des religions a également entretenu ces différences. Si l'environnement a longtemps été défavorable aux femmes, de nombreuses lois visent à rendre cette égalité un droit et une réalité appliquée. Ainsi, au-delà des comportements que certains hommes maintiennent, les femmes sont également complices de cette inégalité en reproduisant au travers de l'éducation une image inférieure de la femme, certaines mères n'encourageant pas leurs filles à développer leurs capacités intellectuelles. Maintenant, comment expliquer la diminution du ratio homme-femme entre les années 80 et aujourd'hui? Je vous parlais là, qu'il y avait 13,5 des hommes pour une femme qui était parmi les plus intelligents dans les années 80. Bien, la diminution du ratio homme-femme correspond aux effets des années 70 durant lesquelles les femmes se sont émancipées et ont acquis plusieurs libertés consécutives, comme la liberté sexuelle, droit à l'avortement, la fameuse pilule, entre autres. Elles ont pu enfin décider de leur corps et de leur vie. Ces évolutions majeures qui ont suivi le droit de vote des femmes en 1945 ont conduit à une émancipation progressive. Et en 1980, ces libertés n'étaient pas encore entrées dans les mœurs de toutes les femmes. Aujourd'hui, avec le recul, plusieurs générations se sont succédées. La mixité à l'école a permis que garçons et filles se côtoient. Cela a eu pour effet une démystification des uns et des autres et des résultats scolaires bien plus serrés entre garçons et filles. Sur quoi repose l'intelligence? Comment est-elle façonnée? Aujourd'hui, est-il possible de distinguer un sexe qui serait plus intelligent que l'autre? Je dois m'arrêter ici, mais je...
C'est pas... intéressant, on pourrait y revenir éventuellement.
Oui, c'est un texte de Mme Christine Marsan sur le site Internet Atlantico.
Se nomme comment, le texte?
Les hommes à la fois plus intelligents et plus bêtes que les femmes.
Merci beaucoup.
Sur le site Atlantico.
Ouais. Merci Pierre, merci Chelin. Merci.
Y'a maintenant qui moi je suis un enfant spécial avec des pensées régales qui joue dans des festivals. N'a qui moi, n'a qui chego, à qui c'est une fille m'a vraiment discuté. Tu t'habilles drôle pour le fun, veux-tu en discuter? Ton psychiatre a une prescription pleine de ritaline, allogène ou valium, des enfants spéciales avec des pensées spéciales. Hello, si tu es au multitask, il faut que tu pick up un check avec une face comme ce set. Au moins ma mère trouve que je suis cute, elle m'aimera mieux si je ferais mute. Au lieu de mutiler des mots, oui, je pourrais faire un TV show. Des enfants spéciaux, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. À qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial.
C'est pas notre faute, c'est même la terre nous en fait. So why no word, c'est là que je t'invite. Ma, ma, qui moi je suis pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'en contre rien, pis j'irai danser dans le noir. Jusque tout ce que tu vois est pas vraiment là. Ma, un chèque, tu sais, parce que je sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial, je t'aime donc jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute, ma jeune enfant de l'état. Ma, qui moi je suis pour dire tout ça, c'est vrai. J'en fous comme des balles, puis j'avons point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back ses souliers. J'ai dit fun en ça fait 3 heures, puis j'marche partout mes pieds.
Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial.
Ouais, je suis un singe, je suis un roi, je suis un coureur de bois. Je suis un capitaine d'un bateau, je suis Jésus sur la croix. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un grand-père, pas un bébé. Je suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. Je suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a chaque année en sorcelé. Je suis un pauvre, je suis un riche, je couchais d'une caniche. Je suis un clean cut, bref, un hippie avec une barbiche. Là, toi pis moi je suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et je tombe d'une planète à l'autre, toujours en train de me moquer. De l'énergie qui déborde, moi je vais me laisser m'emporter.
Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, je suis un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, un enfant spécial. Moi je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Ma qui moi je suis, toi t'es un enfant spécial.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
En terminant ce rendez-vous de Folie douce, Justin Malo, on va avec la nomenclature des chansons qu'on a écoutées aujourd'hui dans l'émission, bien sûr, de Folie douce.
Oui, oui.
On a écouté en début d'émission du Grand Banditisme.
Le groupe Louise Attaque.
Oui, on a pu entendre Amazon.
D'un autre groupe, La Maison Tellier.
Dans la deuxième demi, on a écouté Comme la mer.
De Brunswick.
Et à l'instant, Enfant spécial.
Radio Radio.
Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour ta mise en onde.
Bienvenue.
Ainsi que tes blocs espresso et allongés où il était question du sexe de l'intelligence, l'intelligence chez les hommes, chez les femmes. Un long débat, on pourrait sûrement y revenir parce que ça...
on va recevoir des commentaires.
Ça fait couler beaucoup d'encre, puis ça fait beaucoup discuter les gens, ça c'est certain. Je remercie notre invité de l'émission qui était MC Jerv, Stéphane Gervais, qui nous a parlé de... C'est des bonnes nouvelles parce que c'est quelqu'un qu'on a interviewé en 2011 et plusieurs années plus tard, bien, il vient nous parler de son expérience qui... ça va beaucoup mieux et puis ça va de mieux en mieux, alors c'est excellent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Stéphane. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie douce. Au revoir! Pop, 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 pop